Ultrason.
Ultrason.
L'invité de la semaine.
Bon, la musique, c'est de côté parce que j'ai la chance, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir ici Olivier Langendries, directeur sportif du Royal Union Tubis Brenne depuis 5-6 ans déjà. Et un vrai enfant du club, j'ai envie de dire aussi. Il a été joueur, entraîneur des jeunes, etc. Salut Olivier.
Salut, salut.
Comment tu vas?
Très bien, merci.
Approche-toi un petit peu du micro, comme ça on t'entend mieux, yes.
Voilà.
Qu'on entende ta belle voix. Ben écoute, moi je suis très content de t'avoir, surtout que comme on avait parlé en off, t'as un peu fait tous les échelons du club et j'avais envie de te demander un petit peu de me parler de ce club qui est en tête de la DAACFF qui donc du coup peut-être sera en professionnel l'année prochaine. J'ai envie que tu me parles un peu de l'équipe, de l'atmosphère autour de ce club particulier.
Bah écoute, l'atmosphère actuellement elle est bonne parce qu'on est, en tête du championnat, effectivement, c'est toujours... plus gai dans ce cas-là, on va dire. Non, mais en général, c'est un club, je dirais, familial, qui veut quand même se structurer de manière professionnelle. Et bon, qui a connu le monde déjà professionnel et qui veut retourner. Donc, ça reste un mix entre familial et professionnel.
Ouais, c'est sûr qu'une fois qu'on a goûté le monde pro, on est là en mode on veut y retourner, absolument.
Oui, c'est sûr, c'est toujours plus gai d'avoir des stades remplis, on jouait contre des équipes connues, etc. Donc c'est clair, ça, on a envie d'y retourner.
Et l'ambition alors reste de... Est-ce que l'ambition c'est de monter directement? Est-ce que l'ambition c'est d'être champion? Ou l'ambition ça peut être aussi au cas où il y a les playoffs qui vont arriver maintenant, si vous finissez, je sais pas, troisième et que vous montez pas, est-ce que c'est grave ou pas du tout?
Non, on va pas dire que c'est grave, parce que voilà, on est à ce niveau aussi depuis quelques années, maintenant depuis la fusion. Mm-hmm. Enfin, on est monté il y a 2 ans, mais je veux dire, on reste dans ce niveau amateur depuis quelques temps, mm-hmm. donc c'est pas non plus grave, mais on a quand même, on a cet objectif qu'on est à ce moment-ci de la compétition, en tête du championnat, il faut tout donner pour... essayer de que ça arrive et que ça se passe pour moi.
Bah oui, et justement, j'avais envie de savoir comment ça se passe un petit peu les playoffs en DAACFF, mm-hmm. parce qu'on sait par rapport à la Pro League, comment ça se passe, les 6 meilleures équipes s'affrontent, etc., ouais. en match aller-retour. Est-ce que c'est un peu différent chez les amateurs ou pas du tout?
Bah nous, notre championnat, effectivement, donc les 6 premiers vont se rencontrer en match aller-retour, on va mm-hmm. dire, à nouveau. Donc c'est 10 matchs et donc ce qui se passe à la fin de la phase classique ici, il nous reste un match au week-end de phase classique.
Contre Meux, il me semble.
C'est ça, on va à Meux. Donc là, après, tous les points sont divisés en deux. Les 6 premiers, on divise leurs points en deux et on recommence un mini-championnat avec ce nombre de points divisé en deux.
Mais c'est fou en plus parce que la lutte pour les titres est incroyable. Vous êtes en train de lutter avec Virton et Mons notamment. Vous êtes quasi à même égalité de points, c'est fou.
Ouais, c'est très très proche. On a 2 points d'avance sur Virton et 3... Pas sur Mons, donc si vous divisez les points par deux, ça fera. On sera tous à un point, plus ou moins, on va dire, au début des playoffs.
Et je me demandais à quel point cette Détroit, entre guillemets, des 1CFF est dure et particulière, parce qu'on connaît tous un petit peu le monde professionnel, la Pro League, la Challenger Pro League, mais le monde amateur, le premier du monde amateur, on connaît un petit peu moins.
Ouais, niveau de difficulté, tu veux dire, c'est pas
ou
évident.
Est-ce qu'il y a des choses particulières peut-être qu'on n'a pas peut-être dans le monde pro aussi?
Les choses particulières, c'est qu'on doit essayer de jouer quand même avec des joueurs qui restent des joueurs amateurs, c'est-à-dire des joueurs dans le championnat. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un boulot et qui doivent combiner avec un sport qui est limite proche du professionnel, avec beaucoup d'exigences en termes de nombre d'entraînements, etc., de présence. Donc la difficulté est plus là aussi, on va dire, dans l'organisation de tout ça.
Non, très très chouette. Et une dernière question pour cette première partie. Je pense que tu l'as vu, tout le monde l'a vu, que Eden Hazard a intégré le club en tant que président honoraire, je crois.
Président d'honneur.
D'honneur, voilà, c'est ça. Il me demandait en fait, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Est-ce qu'il c'est un sorte d'ambassadeur, un conseiller, un investisseur dans l'ombre? Il fait quoi?
Non, comme tu dis, c'est plutôt ambassadeur, effectivement, ouais, vu qu'il... Il habite toujours à Madrid, c'est un peu compliqué pour lui de concrètement, on va dire, aider pratiquement sur Tubize ou Brenne. Donc c'est plutôt un ambassadeur. Ah non, mais tout le monde sait qu'il est passé par notre club en étant jeune. Son histoire a commencé chez nous et la plupart des médias, etc., ça très bien. Et donc effectivement, des joueurs qu'on veut parfois recruter, ben, ils connaissent le club un peu comme ça aussi, en sachant qu'il y a des Nazar est passé par là. Et...
Ah oui, ça doit aider vachement, que oui. ce soit pour inspirer les jeunes aussi au centre de formation, on va en parler plus tard, voilà. ou les joueurs qui veulent venir. Quoi.
Oui, tout à fait.
Non, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette première partie. Deuxième partie de l'interview, on va un petit peu parler de toi, de ta passion et de ton rôle aussi de directeur sportif que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent pas trop. Ben, c'est le moment d'en parler un petit peu plus.
Ultrason.
Partie 2 de l'interview avec Olivier, directeur sportif du club ici à Tubize-Brenne. Bon, Olivier, on en a parlé en off, mais apparemment, tu étais un très grand attaquant à l'époque.
J'ai pas dit très grand, j'ai dit j'étais attaquant.
Ouais, voilà, poste de 9, hein, c'est ça. Hein.
Oui, oui.
Et donc voilà, t'es passé de attaquant à maintenant directeur sportif.
Oui.
Et j'avais envie de savoir vraiment que tu nous parles un petit peu de ce métier, ça consiste en quoi exactement ? Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'être un directeur sportif. Et à quel point c'est exigeant aussi.
Oui, bah déjà métier, j'ai envie de dire, déjà c'est pas mon métier.
Ok, ah pardon, oui, tu vois.
Parce que voilà, j'ai un métier à côté de ça, c'est-à-dire directeur sportif, c'est le rôle que j'ai au sein du club, mais ouais. c'est un rôle tout à fait bénévole. Donc,
c'est vrai que c'est important de préciser que tout le monde est bénévole.
Ouais, toutes les personnes joueurs. Qui s'occupent dans le comité sont bénévoles, mm-hmm. donc ils font ça par passion à côté de leur boulot. On a tous un boulot et ça nous prend quand même pas mal de temps, effectivement. Donc en soi, le rôle de directeur sportif, oui, c'est on a un petit comité sportif, donc c'est le principal rôle, ça se déroule un peu en avant-saison, mm-hmm. Composé à noyau. Donc tout ce qui concerne la rencontre des joueurs, les transferts. Et au quotidien, on va dire, c'est un contact journalier avec le staff, le coach, pour mettre des choses en place, pour voir aussi participer aux entraînements, voir un peu comment ça se passe, discuter avec l'entraîneur. Période ici qu'on a eu une mercato, ben ça s'est chargé parce qu'on a dû se renforcer parce qu'on avait perdu quelques joueurs.
Ah, les sagas.
Ouais.
Les sagas à Mons notamment.
Ouais, voilà, c'est ça. Et à côté de ça, oui, voilà, donc ça prend beaucoup de temps à cette période-là. Après, c'est vrai que voilà, on reste dans une gestion amateur, c'est pas encore un job vraiment particulier. Après, ça se passe autrement quand on passe au niveau professionnel et là, effectivement, ça peut devenir un job à temps plein.
Et justement, je me demandais, quel était l'aspect un petit peu le plus dur d'être directeur sportif ? Est-ce que c'est le fait, comme tu disais, de perdre des joueurs peut-être importants dans les derniers instants du mercato ? Mmh. Est-ce que c'est gérer peut-être les agents aussi, qui sont pas... C'est pas très très facile parfois, les relations. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur ?
Ouais, mais c'est vrai qu'on a un niveau où on doit déjà discuter effectivement avec des agents, des choses comme ça. Malgré qu'on reste dans le foot amateur, c'est le plus haut niveau du foot amateur et on est proche du foot professionnel. Donc beaucoup de joueurs ont des agents et effectivement c'est pas évident de cet aspect des choses qui est assez complexe de discuter avec agents ou tout de suite ce genre de choses là.
Et est-ce que tu as des inspirations, des modèles de directeurs sportifs peut-être ? Est-ce que tu regardes un petit peu à gauche à droite ce qui se fait ou tu te dis je découvre au jour comment ça se passe avec ce job là ?
Oui, c'est vrai que c'est une découverte au jour le jour. Nous, on a peut-être un peu parfois des difficultés dans le sens où on n'a pas les moyens de dingue. Donc, effectivement, c'est jamais évident. Parfois, tu arrives à faire une bonne pioche, une bonne trouvaille, découvrir un joueur. Après, quand tu commences à discuter avec lui, tu te rends compte qu'il y a peut-être d'autres clubs aussi qui sont en train de discuter. Et après, évidemment, souvent, à ce niveau-là, l'aspect financier joue. Et comme on a un club qui n'a pas non plus des moyens énormes, mmh. il y a peut-être parfois cette frustration d'avoir fait une belle découverte et qu'après ça passe sous le nez parce qu'il y a un joueur choisi pour finir un autre projet. Quoi.
Mais surtout, j'imagine que parfois tu dois être le directeur qui a découvert peut-être une sorte de pépite avant tout le monde. Tu avais envie de mettre tout, pas vendre ta maison carrément, mais dans l'expression de tout mettre sur le joueur, mais que le joueur, parce que un club un peu plus important financièrement tombe dessus, mm-hmm. et voilà quoi, c'est fini et c'est hop là, il faut repartir à nouveau à la chasse quoi.
Oui, effectivement, c'est toujours remettre le travail, recommencer à zéro, on va dire presque chaque début de saison. Mais bon, c'est quand même gratifiant dans le sens où quand on découvre un joueur, quand il évolue chez nous, il mm-hmm. performe et qu'après il peut aller à un niveau supérieur. Là, par contre, c'est gratifiant.
Ah oui.
C'est pas comme je t'ai dit, où auparavant, tu essaies d'avoir un joueur, mais qui choisit d'aller ailleurs. Mmh. Mais quand ton joueur que tu as même formé au club arrive à performer au sein de l'équipe première et après est tellement bon, à un moment donné, il doit partir à un niveau plus haut. Nous, on est tout heureux de ça, en fait.
Est-ce que tu as en tête peut-être un ou deux joueurs, justement, où tu sentais cette sorte de fierté, qui sont peut-être partis jouer autre part en Belgique au niveau supérieur, en pro ou à l'étranger, qui t'ont marqué pendant les 5 ans là?
Écoute, c'est surtout à l'époque quand j'étais président des jeunes, on avait une formation élite à ce moment-là à Tubize. Mm-hmm. Et là, on a eu énormément de talents. Et à un moment donné, il n'y a rien à faire. Ils doivent nous quitter parce que des clubs plus grands, plus huppés viennent les voir et viennent les chercher. Et là, c'est difficile de vouloir retenir un enfant comme ça qui est tellement doué, qui peut. Et donc, on a quelques cas effectivement de joueurs qui après sont partis plus haut à l'étranger, sont devenus internationaux. C'est bien au club. Il y a par exemple la famille Hazard, mais bien à côté sûr, de ça, il y en a beaucoup d'autres qui ont eu l'occasion d'évoluer chez nous. Un exemple ici qui a disputé la finale de la CAN, c'est Sem Sendin Talbi du Maroc. Il a joué chez nous en jeune et après il est parti au Club Bruges parce qu'il avait été pisté par le Club Bruges. Mais voilà, c'est tout beaucoup de joueurs comme ça qu'on n'imagine même pas qui sont passés chez nous.
J'aurais jamais imaginé que Talbi avait commencé d'abord à Tubize et puis au Club de Bruges. Incroyable.
Trésor qui a joué à Genk, qui est parti en Première Ligue. Trésor aussi était en jeune chez nous. Donc il y a énormément de jeunes qui sont passés par notre centre de formation et ça c'est effectivement c'est une satisfaction parce qu'ils en reparlent plus tard en reparlant toujours du club en bien.
Incroyable, on va parler du centre de formation plus tard. Et là, avant de commencer la partie 3 de l'interview, tu vois devant toi qu'il y a des 3 bandanas. Comme tu peux voir, c'est pas juste de la décoration. Parce qu'à la fin de l'interview, je vais te demander de nouer le bandana quelque part là où tu veux et de t'engager peut-être à un petit défi devant les auditeurs. Okay. Donc tu as une petite demi-heure pour un petit peu réfléchir. Et donc voilà, fais-nous plaisir avec un très très bon défi.
Ultrason.
Continue la partie 3 avec Olivier, directeur sportif à Tubize Brain ici. Et Olivier, je me demandais, en tant que directeur sportif, tu fais des interviews, tu vas dans les médias de temps en temps, surtout la télé. Et moi, je me demandais quelle était la question que tu aimerais peut-être qu'on te pose plus souvent, mais que personne ne pense à te demander. On faisait mieux notre boulot.
Écoute, la question là est très compliquée, ce que tu viens de me poser.
Je sais, c'est fait exprès.
Déjà pas celle-là, parce qu'elle est très compliquée à répondre. Franchement,
peut-être un aspect que les gens ne pensent pas par rapport à ton métier, qu'on aimerait qu'on te demande plus souvent. Par exemple, est-ce que tu arrives à gérer la vie de famille, la vie professionnelle et la vie à ma bénévole, par exemple?
C'est ça, par exemple. Je pense à ça, de question genre comment ça va, en fait, tout simplement, de parler toujours des questions directes sportives, etc. Toujours comment tu vas, comment va la famille, etc.
On te pose pas assez souvent.
Après c'est vrai que c'est pas le but de poser ces questions là quand on vient dans un média, parce que le média est plutôt là pour aller direct au sujet principal qu'ils veulent développer, qui est le sujet sportif. Je veux dire qu'en aparté, ça se passe quand même comme ça souvent maintenant, comme c'est des télévisions locales ou des journalistes locaux, on se connaît. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça se fait en aparté, on parle un peu d'autre chose que du foot après l'interview, on va dire.
Non, c'est très important. En fait, l'idée m'est venue parce que tu remarques aussi, quand t'as un match de foot, les joueurs, ils viennent en post-interview, etc. On leur demande jamais vraiment comment ils vont, etc. On va tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous avez trouvé votre match? Vous avez bien joué, pas bien joué, etc. Et personne ne leur demande vraiment si ça va.
C'est vrai.
La relation peut-être familiale a affecté leur performance aujourd'hui,
comme ça. C'est vrai que c'est très formaté et qu'on va direct au sujet principal, mais... C'est comme tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait parfois pas, et on juge parfois un joueur sur une prestation et on se dit il était à chier aujourd'hui, mais après on se rend peut-être pas compte que durant la semaine il y a eu peut-être un problème familial ou ça reste des êtres humains, donc c'est vrai que c'est parfois intéressant d'avoir aussi cet aspect-là.
Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais. Content que tu aies répondu. Merci beaucoup, Olivier. Partie 4, dans quelques instants, on va faire un petit une de rapide. Donc, ce sera une petite série de questions courtes, réponses courtes.
Ultrason.
On continue, évidemment. Partie 4, Olivier est là toujours, directeur sportif de Tubis Brain. Et c'est ma séquence préférée, je te préviens tout de suite. C'est la séquence 1-2, donc une petite question de réponse, question courte plutôt, et ouais. Réponse courte. J'espère que tu es prêt.
Oui.
Rien de bien méchant, t'inquiète. Alors, première question. Pour ou contre une Coupe de Belgique, mais juste pour les amateurs. Donc, c'est-à-dire pas jouer contre les professionnels, mais les amateurs de la D1 à, je sais pas jusqu'où ça va, D3, D4, je sais pas.
Ouais. Oh, je dirais non, parce que pour nous, en tant que club amateur, ben, c'est ce qui est bien, c'est de jouer contre des clubs de division 1 ou 2. Donc, ben, on a eu la chance, les deux dernières années, de jouer deux gros clubs, Anderlecht
et l'Union.
Et l'Union, donc ça a à chaque fois rempli le stade. Donc, nous, on est contents qu'on puisse jouer contre ces équipes-là.
Non, je te comprends tout à fait. Je m'attendais à cette réponse. Pour ou contre les systèmes de play-off au football belge, que ce soit de ton côté ou même plus haut?
Moi, je suis assez pour, parce que je trouve que ça donne pas mal de piment en fin de saison. C'est souvent jusqu'au dernier moment qu'on décerne le prix, le champion, aussi bien en division 1 que dans les autres divisions. Donc moi je trouve ça pas mal.
Et est-ce que du coup, comme la Pro League va arrêter les playoffs, est-ce que le division amateur va aussi arrêter aussi?
Non, pas nécessairement. Maintenant, c'est vrai que c'est revu quasi chaque année, donc on s'attend... On ne sait pas à quoi ça tente, on va dire. Donc non, c'est pas lié. Donc ça peut continuer dans nos divisions amateurs.
Ok. La VAR en amateur, est-ce que ça arrivera un jour, tu crois?
Non, je pense pas.
Non, pourquoi pas? Ça coûte trop cher.
Déjà, c'est une question de moyens, je pense. Je crois que c'est perdu d'avance. On n'a pas les moyens, on va dire, au niveau amateur d'avoir ce genre de technologie.
Ok. Et est-ce que, du coup, qu'est-ce qui te fait le plus mal entre un recrutement raté ou un départ inattendu?
Plutôt un départ inattendu, je dirais, parce que recrutement raté, ouais, ça peut arriver. Dans chaque club, ça arrive. Mm-hmm. Donc, départ inattendu, ça arrive peut-être moins souvent.
Ok. Et si, imaginons un scénario pas si fictif que ça, mais que le Royal Union et Tubis Brain montent en mode pro demain, quelle est ta toute première action? Qu'est-ce que tu fais? À part célébrer, évidemment,
Je fais la fête. Ouais.
Mais ça compte pas. Ça, c'était implicite. Est-ce que tu contactes déjà?
Je crois qu'on doit d'abord tous se mettre à table au niveau du comité. on prépare déjà ça bien à l'avance. Je veux dire, on est déjà, nous, occupés à préparer au cas où. Donc, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On travaille ça.
Ok. Et si tu pouvais changer une seule chose dans le football belge, ce serait quoi? Et n'hésite pas, il faut pas être timide. Si t'as quelque chose qui te révolte, que t'as envie de changer, il faut en parler aussi.
Là, comme ça, je vois pas trop, je t'avoue. Parfois, je parle de la division 1, là, l'arbitrage. Parfois, je trouve que c'est pas top. C'est pas le niveau le plus excellent qu'on puisse connaître en Europe.
Quoi. C'est vrai?
Ouais.
Oh, dur. Ça tombe bien, je vais recevoir Eddie Swingers, un arbitre aussi dans deux semaines, je crois.
Non, je suis pas anti-arbitre.
Mais c'est important de le dire.
Je trouve que chaque semaine, on a droit à des discussions. Mais par exemple, on parle de l'émission de la tribune de la RTB. Mm-hmm. Parfois, il y a des incohérences d'une semaine à l'autre. On se demande pourquoi parfois.
Non, c'est clair. Et quel est ton plus beau souvenir de foot à toi?
Je pense ma jeunesse, quoi. Le jouer le foot quand j'étais jeune. J'ai encore des souvenirs de ça, donc c'est certainement mes plus beaux souvenirs, comme j'ai encore ces souvenirs-là en tête. L'insouciance, jouer vraiment pour le plaisir, avec des copains, des copains de classe, etc. Ouais, c'est les plus beaux souvenirs. À côté de ça, oui, en étant en équipe première, j'ai connu des beaux souvenirs aussi, en jouant, j'ai connu des montées, donc ça reste aussi des très beaux souvenirs.
Ok, dernière question. Imaginons que le directeur sportif a un peu plus de moyens, niveau Manchester City ou PSG. Si tu pouvais recruter 3 joueurs belges actuels, ce serait qui?
Dans l'ordre du possible ou impossible?
Non, l'ordre du possible. On va essayer l'ordre du possible quand même, mais...
Du possible, je crois que pour l'instant, nous, il n'y a rien de possible. Parce que
ok. Point de vue moyen, alors, dans l'impossible, alors.
Si c'est des joueurs.
Ouais, c'est ça. Dans l'impossible, alors.
Des joueurs belges, bah, on va dire tout ce qui est au niveau équipe nationale. Il y a pas mal de joueurs, évidemment, qui font rêver. Mais bon, j'ai du mal à imaginer que je puisse recruter ce genre de joueurs.
Oui, je sais. Mais c'est un scénario fiction, ouais, pour un petit peu rêver. Au cas où il y avait des joueurs, tu dis ah.
Il y a un joueur belge pour l'instant qui me plaît beaucoup, c'est Alexis Salamakers. J'adore son
profil,
sa façon de jouer, sans réfléchir, un peu à l'instinct. On prend beaucoup de plaisir, on sent que c'est un joueur qui joue au plaisir. Donc moi, c'est un joueur qui me plaît bien.
Ultrason.
On va clôturer cette interview avec Olivier, évidemment, directeur sportif ici à Tubizbrenn. Mais Olivier a un point très très important qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup de gens, c'est la formation, le centre de formation. Donc j'avais envie que tu nous parles un petit peu du centre de formation, du projet un petit peu à Tubiz. Centre de formation 3-4-3, n'est-ce pas ? 343, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Dans ma tête, c'était 3-4-3, la formation, mais pas du tout.
En fait, voilà. L'ancien matricule du club.
Voilà,
du
exactement.
Stade Brennois,
donc,
voilà. On a fusionné.
N'hésite pas à nous dire, nous toucher un petit mot par rapport à la formation, la philosophie derrière, etc.
Ouais. Bah, la formation, elle est très, très importante. C'est parce que dans le club, on a envie de faire évoluer le plus possible de jeunes dans notre équipe première. C'est important d'avoir cet ancrage local. Ça a été depuis plusieurs années. On a encore des joueurs ici dans notre noyau, pas mal d'ailleurs, qui sont passés par notre formation. Donc, ils ont réussi à faire tout ce parcours dès l'âge de 5-6 ans et continuer dans le même club pour atterrir en équipe première. Donc, c'est vraiment important pour, déjà, point de vue projet social d'une ville ou d'une région. Et aussi à côté de ça, pour tout ce qui est supporter, d'avoir des joueurs comme ça qui sont connus dans le coin, qui habitent dans le coin, c'est toujours positif et ça amène aussi du monde au stade pour voir des pépites du coin.
Non, c'est ça, c'est clairement ça. Et je me demandais justement, qui dit centre de formation dit jeune, qui dit jeune dit parent, qui dit parent dit attente interminable. On entend très souvent parler du projet Mbappé par exemple, avec des attentes irréalistes des parents. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, les parents qui en demandent peut-être un peu trop?
Oui, c'est pas évident. Les formateurs de jeunes ont parfois des difficultés avec ça, parce qu'effectivement maintenant, comme tu dis, le projet Mbappé, nous et les jeunes, ils ont en tête Hazard, Eden aussi,
bien sûr,
Thorgan, enfin des joueurs qui sont passés par chez nous et qui ont réussi. Donc il y a cet exemple là donc du coup effectivement parfois ça fait monter la tête à des parents, surtout maintenant qu'on entend tout ce qui se passe financièrement, ce qu'un joueur peut gagner, ça fait effectivement monter la tête. Mais il faut rester les pieds sur terre, il faut garder cette philosophie qu'on a, c'est-à-dire que les parents n'ont pas on va dire de mots à dire. Il faut inculquer une certaine discipline. Et moi, par expérience de joueurs que j'ai déjà vu passer, parce que comme je t'ai dit, il y a pas mal de jeunes chez nous qui sont passés chez nous et qui ont réussi, je connaissais les parents, et les parents c'était justement des parents qui laissaient tranquille leurs enfants, qui n'étaient pas tout le temps derrière eux, etc. C'est même parfois des parents qui venaient même pas voir leurs enfants jouer, qui les laissaient tranquilles, on va dire, qui les laissaient s'épanouir dans une envie juste de jouer au foot. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que les parents ne soient pas trop derrière eux, à refaire un match après un match, etc. Donc il faut essayer de... ça continue comme ça, quoi.
Mais voilà, les parents qui nous écoutent, vous l'avez entendu, laissez vos enfants profiter et jouer, c'est vraiment le plus important. Et avant ça, avant de clôturer, j'avais envie que tu nous parles de ton petit défi que je t'ai lancé. Quel défi est-ce que tu as envie de partager à nos auditeurs?
Bah écoute, tout au long de l'interview, je crois que c'est un peu logique de dire le défi, c'est qu'on passe une division, qu'on monte dans le monde pro, qu'on retrouve ce monde pro. Vu la place qu'on a actuellement, on ne peut pas faire autrement que de se lancer un défi comme ça en se disant que c'est possible. Voilà, je crois que c'est...
Et que vous allez le faire.
Je croise des doigts.
Mais oui, mais magnifique. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'être passé ici sur Ultrason. C'était très, très chouette.
Avec plaisir.
Voilà, j'espère que les gens qui nous écoutent ont pu découvrir un petit peu le métier de directeur sportif et à quel point le club de Tubizbrenn est aussi... un bastion, un étendard aussi de la région. Donc,
Oui, et que les auditeurs n'hésitent pas à passer voir un match. Je crois que quand ils viendront une fois, ils reviendront une autre fois.
Mais voilà, c'est noté. Stade Les Buretons, j'y étais dans ma jeunesse. Très, très beau stade, ouais. Très, très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas.